Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'infanterie, de son fonctionnement et de sa place dans la guerre d'Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Michel Goya, colonel à la retraite, issu des troupes de marine, c'est-à-dire de l'infanterie, disons, mais on en parlait hors micro, c'est toute une question. Mais c'est une infanterie particulière et on reparlera probablement des différentes fonctions et identités qui peuvent coexister au sein de l'infanterie. Je rappelle que vous êtes aussi consultant défense sur BFM TV, qu'on avait eu le plaisir de vous recevoir déjà il y a quelques semaines pour parler justement de la guerre en Ukraine, de la manière dont il est possible de la traiter dans les médias. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là à nouveau.
Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau.
Je vais signaler d'ailleurs que cet épisode est encore le record d'écoute du Collimateur à l'heure actuelle. Alors après, on a tendance à repousser les records les uns après les autres depuis quelques mois et depuis le début de la guerre. Ça nous réjouit évidemment énormément. En même temps, ça s'explique assez facilement puisqu'il y a évidemment un intérêt très nouveau et très croissant pour ces questions. Et le podcast est, j'espère, un des endroits où les gens peuvent en trouver un traitement de qualité. Mais c'est un record qui tient quand même depuis pas mal de semaines, et je voulais le signaler, parce que c'est aussi un témoignage, un de plus, de la grande qualité de vos analyses, Michel Goya. Je vais signaler aussi que c'est un épisode qui s'inscrit dans une série qu'on a intitulée « Les armes à l'épreuve de la guerre d'Ukraine », qui a pour but de faire une sorte de rétex à chaud, de retour d'expérience, donc je jargonne moi aussi d'un coup, et de voir ce que ce conflit si exceptionnel nous apprend en même temps sur la guerre contemporaine et sur ses différentes composantes. Donc on a parlé déjà des chars d'assaut, de l'aviation, de la marine, de l'artillerie. Et il est donc temps d'aborder l'infanterie, qui est à la fois une arme absolument aussi centrale, voire plus que les autres, et qui en même temps attire un peu moins l'œil peut-être, parce qu'on a parfois du mal à la cerner, à l'isoler et à en faire le tour, notamment il me semble parce qu'elle interagit très fortement avec ses autres armes. Si je me laissais aller à la métaphore, je dirais presque qu'elle peut avoir un rôle de tissu conjonctif qui entoure et qui fait la liaison entre les grandes composantes structurantes des armées, en plus de sa fonction propre et de ses rôles, des rôles qui lui sont assignés. Alors justement, ça va être la première grande étape, Michel Goya, d'essayer de définir ce qu'est l'infanterie, parce que, bon, spontanément, on pense avoir une image très évidente et presque instinctive de l'infanterie et des fantassins, c'est-à-dire c'est un soldat plus ou moins à pied ou véhiculé, avec son armement, peut-être parce qu'on a l'image aussi des deux guerres mondiales, puis d'ailleurs des guerres bien avant, où le fantassin pouvait être en quelque sorte le pion de base des différentes armées et un outil aussi un peu à tout faire. Mais le fait est que l'infanterie a beaucoup évolué dans son équipement et dans son organisation depuis la moitié du XXe siècle. Et c'est ça, je crois, qu'il faut vraiment comprendre pour commencer à saisir son rôle en Ukraine. Donc commençons par là. Qu'est-ce que c'est que l'infanterie, Michel Goya, et à quoi ça sert ?
C'est une bonne question. L'infanterie, c'est fondamentalement une arme de précision et de combat rapproché. C'est une arme qui est destinée normalement à combattre effectivement à quelques centaines de mètres. Bon, même si maintenant elle est dotée d'armes qui lui permettent de tirer à plusieurs kilomètres, ce qui entretient le flou avec d'autres spécialités. Il y a forcément des superpositions qui posent forcément aussi un certain nombre de problèmes d'organisation. Mais voilà, fondamentalement, c'est la troupe qui est composée de petits atomes et que chacun est un système d'armes à lui tout seul, qui est destiné à un petit stratège sur 300 mètres, on va dire 300, 400 mètres, et qui sert à généralement à occuper, reconnaître, attaquer, défendre le terrain. Essentiellement, il est quand même souvent lié au terrain. Alors, oui, évidemment, pendant très longtemps, c'était l'arme principale. Enfin, c'était dans les forces terrestres, c'était le triptyque infanterie, cavalerie à cheval et artillerie qui tirait sur à vue sur ce qu'elle voyait. Et puis, les choses se sont très largement différenciées avec la révolution militaire de la révolution industrielle à partir du milieu du 19e siècle, avec une augmentation considérable de la puissance de feu qui a abouti à troubler un peu ces distinctions, a abouti à une diversification de l'infanterie dans sa composition, dans son organisation. L'infanterie moderne, elle naît pratiquement pendant la Première Guerre mondiale. Les structures n'ont pas énormément évolué depuis 100 ans, on va le dire comme ça. Prenez un chef de groupe de combat d'infanterie, c'était mon premier métier, de 1918, vous le téléportez aujourd'hui dans un régiment d'infanterie, il comprend à peu près comment ça fonctionne. Vous le téléportez 4 ans plus tôt, en 1914, avec un pantalon rouge et un fusil Lebel, il comprend rien. Il ne comprend plus rien. On n'est plus du tout dans la même chose. Donc on a basculé à ce moment-là et on a devenu une vraie infanterie moderne, on pourrait qualifier d'infanterie industrielle. Et là-dessus, cette révolution militaire...
Donc ça ressemble à quoi ? C'est quoi cette organisation nouvelle qui apparaît en 1918 ? Par exemple, je ne sais pas, en termes de groupe, en termes de...
Par exemple, en 1918, naît une innovation qui est absolument fondamentale, qui est le groupe de combat, on y parlait, et notamment le chef de groupe. C'est-à-dire qu'on a un changement de regard sur certains individus, ces jeunes sergents, et on considère que ces gens-là peuvent prendre des décisions tactiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement, comme c'était le cas, là pour faire appliquer les ordres du lieutenant, donc au lieu de servir, de serrer les rangs, sergent, serrer les rangs derrière, eh bien on va le mettre devant, on va lui confier une cellule tactique, qu'on va baptiser plus tard le groupe de combat, et on lui dit, bah voilà, toi tu es chef de ce groupe, et tu vas pouvoir, tu prends des décisions dans un espace particulier, assez réduit, mais il faut prendre des décisions. Au passage, ça résout un problème tactique vieux à l'époque de plus de 60 ans, quoi. C'est-à-dire que au milieu du 19e siècle, quand on a un bon spectaculaire de la puissance de feu des armes, pour dire simplement, on passe d'une portée pratique du fusil de 100 mètres, on passe à 400 mètres en l'espace de quelques années, avec les fusils à âme rayée, hein, c'est-à-dire que voilà, la balle tourne à l'intérieur du canon et est beaucoup plus précise sur une grande distance. Et d'un seul coup, il y a un problème, comment on fait pour parcourir 400 mètres ? À Waterloo, 100 mètres distance, on tire une fois, ça fait beaucoup de fumée, hop, et on a le temps, avant de pouvoir recharger, on a le temps d'aller au contact, d'aller monter à l'assaut sur l'ennemi. Bon, 400 mètres, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, pendant des dizaines d'années, les grands esprits vont se poser la question, comment on fait pour franchir ces fameux 400 mètres ? Donc, certains vont dire, on va faire en courant, ça donnait naissance aux bersagliers italiens qui défilent en courant, ça donnait naissance aussi aux pachas, je crois, qui est plus rapide. Les chasseurs à pied défilent plus vite, etc. Puis bon, on s'est aperçu que même en courant vite, c'était pas suffisant. Et donc, en gros, il y avait deux écoles. Celle qui disait, il faut disperser. Voilà, pour pouvoir se déplacer, on va disperser, on va diluer les dispositifs. Si on y va trop groupé, on se fait massacrer. Mais on s'aperçoit que, en diluant les dispositifs, les hommes échappent au commandement du lieutenant, on va dire, du chef de section, voire même capitaine, à ce moment-là, plutôt. Et au bout d'un moment, ça n'avance plus, quoi. Donc, ça marche pas. Et puis d'autres disent, c'est pas compliqué, tant pis, on reste groupé et on fonce, comme à Solferino, à la bataille de Solferino, où ça a fonctionné. Alors, c'est peut-être meurtrier, mais au bout du compte, on arrive sur l'ennemi, et là, il se passe quelque chose, quoi. Et puis, 1914, 15, ça marche pas très bien. Et la solution à trouver avec, c'est une solution intermédiaire. On dit, on va fractionner cette section qui était là, lourde, et on va confier à des jeunes sous-officiers une responsabilité tactique. Et ça révolutionne complètement le combat de l'infanterie. Et accessoirement, ce groupe de combat, devient polyvalent. 1914, vous avez des gens qui sont uniquement équipés de fusils, prenons les Français, fusil Lebel avec une baïonnette. C'est ça le fantassin. C'est un homme porteur d'un fusil. Et puis, en 1900, au cours de la guerre, c'est plus ça du tout. À la fin de la guerre, vous avez dans le groupe de combat, vous avez un, deux, généralement deux, qui portent un fusil mitrailleur, donc derrière d'autres qui sont obligés de porter des munitions aussi pour l'aider, des gens qui lancent des grenades par le fusil, etc. Puis d'autres qui sont autour d'eux qui ont toujours des fusils, mais qui sont là pour les aider, parfois des fusils un peu différents, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une spécialisation qui, au passage, implique une interaction entre les individus et qui les rend également plus solidaires et plus solides psychologiquement. Et donc, voilà, l'infanterie moderne, comme ça, industrielle, spécialisée, est née à ce moment-là. Et puis, l'ajout suivant, c'est lorsqu'on répare les véhicules. Donc, la deuxième phase de cette révolution, première, c'est la puissance de feu. Mais comme on continue à se débattre à pied ou à cheval, ben, ça devient compliqué. C'est pour ça que les fronts deviennent statiques, que c'est très meurtrier.
D'où l'intérêt de se retrancher aussi pour limiter
c'est
tout ça.
Enfin, c'est obligatoire. Mais ce que je dis là, bon, ça paraît lointain, mais ça a des résonances jusqu'à aujourd'hui et jusqu'en Ukraine. Et après, la deuxième phase de cette révolution, c'est l'apparition du moteur, de motorisation, avec des engins blindés, motorisés, avions, au sol ou en l'air, les chars, les premiers chars qui avancent à 4 km/h. Hein, donc,
on peut le dire, enfin, on l'avait dit un peu dans l'émission sur les chars d'assaut au tout début. Il y a une question de est-ce qu'un char, enfin, les premiers chars, il y avait le souci d'abriter justement la section, le groupe de combat, pour lui faire passer cette distance difficile. Et il y a toujours eu une ambiguïté de est-ce que c'est le descendant de la cavalerie ou est-ce que c'est une progression.
Justement, ça c'est, comment dire, au départ, le premier projet du colonel Estienne, l'inventeur des chars français, c'est de faire une casemate blindée pour transporter des soldats. Puis bon, s'aperçoit que c'est plus compliqué et il préfère avoir un système d'armes, un porteur de canon, quoi. Donc c'est un engin blindé avec des chenilles qui porte une arme et qui va servir un peu de fer de lance à l'infanterie qui est derrière.
Comme la cavalerie pouvait l'être à une époque éventuellement.
Oui, à part que la cavalerie, elle est plus vite que les hommes à pied. Alors que là, le char va, on commande, en 1917, on commande les chars à pied, hein. Donc le capitaine est derrière les chars et il donne des coups de bâton derrière pour indiquer les directions à suivre. Et donc les fantassins sont à pied. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après la guerre, on voit apparaître deux... alors là, je suis en train de parler des chars, mais je vais revenir à l'infanterie. Mais on voit apparaître deux philosophies d'une certaine façon. Donc soit des chars très cuirassés et qui servent pour accompagner justement l'infanterie. Et puis la cavalerie qui se dit tiens, avec ces engins je peux faire les choses, je peux faire la même chose mais avec des moyens nouveaux à la place des chevaux, donc les automitrailleuses d'abord, puis après c'est des blindés légers. Mais le problème, pendant longtemps on a un peu de mal à concilier gros canons et vitesse, on va dire, et mobilité, et voilà. Et donc ça donne naissance aux divisions en France légères mécaniques. Ils sont des divisions de cavalerie, qui font des missions de cavalerie, mais avec des engins motorisés, et les divisions cuirassées, qui sont là pour faire du choc, qui ont peu de rayons d'action, on va dire, mais qui sont extrêmement puissantes. Mais dans les deux cas, y a des chars, mais on s'aperçoit que le char tout seul, il y a plein d'anticorps qui se sécrètent tout autour de lui, dès le début, dès 1917, les canons, le canon de campagne, les fusils anti-chars, les canons anti-chars, les mines, les trucs, après la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de canons anti-chars qui se mettent en place directement, etc. Et puis on peut continuer jusqu'à aujourd'hui, les missiles, les canons sans recul, les charges creuses, les lance-roquettes, les missiles anti-chars, direct, tir oublié, guidé, piloté, etc. Et à chaque fois...
Donc un char, c'est puissant, mais tout seul, ça va pas très loin, ou en tout cas pas face à un ennemi.
Et il a beaucoup d'ennemis. Ouais. Il y a beaucoup d'ennemis qui essaient d'utiliser ces failles. Et donc, voilà. Donc, à chaque fois, alors d'abord, au point de vue des chars, on a abouti une sorte de compromis avec le char de bataille, qui est à la fois, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est à la fois puissant, bien protégé, bien armé, qui résiste un peu à tout. Et après, à côté, on invente l'infanterie. Alors, les cavaliers appelaient ça des dragons portés, évidemment. Dans l'infanterie, on appelait ça plutôt des chasseurs. Chasseurs à pied portés. Mais dans tous les cas, c'est l'invention d'une infanterie spécifique également sous blindage, donc qui est destiné à suivre ou précéder ou accompagner les chars de bataille dans leur combat et à les aider. Donc c'est un travail complémentaire. Les chars, ils sont un peu le fer de lance. Et puis après, derrière, il y a aussi l'artillerie qui suit, qui est également, qu'on met également sous chenille, sous blindage, pour pouvoir suivre les chars. Et voilà, il y a entre les deux, parce que moi, je parlais de texture, moi j'appelle ça de l'huile. Dans une division blindée, voilà, cette infanterie, elle met de l'huile dans toute la machinerie, quoi. C'est elle, dès qu'il y a un problème, on envoie des fantassins. Dès qu'il y a un endroit suspect ou un village ou quelque chose comme ça où les chars seraient un peu encombrés, on envoie des fantassins s'emparer. Et puis des trucs très simples, hein. Que fait-on des prisonniers, par exemple? Une unité de chars ne peut pas s'occuper des prisonniers, quoi. Donc ce sont les fantassins qui vont prendre en compte tout ce genre de missions, plein de missions, la protection, etc., etc. Et donc c'est un ensemble qui est indispensable au bon fonctionnement de toute cette machinerie industrielle. Donc ça, c'est une infanterie assez spécifique qui s'est formée, qu'on appelle l'infanterie mécanisée, motorisée, blindée, peu importe, et qui est portée sous blindage et qui elle-même dispose d'engins qui sont également des engins de combat. Donc il y a souvent parfois
des ambiguïtés. C'est un des problèmes, c'est que vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas bien les différents types d'équipements, c'est difficile parfois de distinguer un transport de troupes blindées d'un char. Enfin, c'est ce qui permet de faire la blague encore que Jean Michelin conduit des tanks, parce qu'on fait exprès de ne pas comprendre que c'est un fantassin mécanisé. Mais de fait, il y a dans les équipements, Jean Michelin qu'on salue évidemment, mais qui est donc un fantassin mécanisé, et qui... Voilà, il y a une ambiguïté contre laquelle il se débat et on l'empêche de se débattre, qui est que, c'est un blindé avec un canon au-dessus qui peut tirer très loin et très précisément, qui a parfois des chenilles et parfois des roues. Donc, si on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, si on voit pas qu'il y a un groupe de combat à l'intérieur, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que tout ça, c'est, appelons ça des tanks, et que c'est tout la même chose. Mais en fait, c'est la capacité de combat et la capacité de débarquement qui fait la différence et qui permet aussi donc l'action des chars.
Voilà, toute la différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a normalement un groupe de combat. Voilà, sinon, c'est un véhicule de combat. Alors, il y en a plein de différents types. Alors, on est arrivé jusqu'à distinguer les véhicules transporteurs de troupes, les véhicules de combat d'infanterie. Je épargne tout ça. En gros, voilà, c'est un véhicule blindé. Ça, c'est le premier à chenille ou à roue. Mais toujours, le principe, c'est toujours d'accompagner les chars de bataille. Donc, il faut qu'ils soient au moins aussi tout-terrain, qu'ils soient aussi rapides, qu'ils soient aussi tout-terrain, qu'ils aient la même allonge, etc.
Mais cela dit, ça leur donne une capacité supplémentaire et qui est radicale. C'est qu'ils ont des tourelles dessus et qu'ils peuvent donc tirer très loin. C'est pas seulement l'huile dans les rouages, c'est pas seulement ce qui déblaye le terrain tout autour, ça a une vraie capacité offensive, même face à des objectifs assez...
Avec un canon mitrailleur, vous pouvez tirer jusqu'à un anti-charge jusqu'à 1000 mètres à peu près efficacement, et puis autrement en anti-personnel, vous pouvez tirer jusqu'à 2000 mètres, parfois plus même. Non, c'est de vrais engins de combat qui sont complémentaires, hein, entre le canon de 120 mm d'un char de bataille, le canon mitrailleur, il a d'autres effets inverses. Il est moins puissant, mais il envoie de la mitraille, etc. Enfin, l'idée étant toujours d'avoir quelque chose de complémentaire. Avec cette difficulté que l'on a pour l'infanterie mécanisée, c'est que, il faut qu'elle suive le char, etc. Mais le char, il est très blindé, il est très protégé. C'est pour ça qu'on la voit souvent en avant, hein. Un char, il est mobile non seulement par sa motorisation, mais parce qu'il est protégé, donc il peut avancer. Mais donc, il faut que les fantassins suivent derrière et puissent évoluer dans le même espace, on va dire, de bataille, dans le même espace de feu et de danger. Bon, or, souvent, et très souvent même, les véhicules des fantassins sont beaucoup moins protégés, ce qui pose un certain nombre de problèmes, évidemment. On pourrait imaginer, ça s'est fait, hein, ça se fait encore, les Israéliens le font, par exemple, d'utiliser des châssis de chars de bataille, ce serait logique, hein, on dit, on va prendre le châssis du char Leclerc, on enlève la tourelle, on fait un vide, on met de quoi mettre un groupe de combat à l'intérieur, avec une tourelle un peu plus petite, qui utilisera autre chose, un canon mitrailleur. Voilà, et on a des gens qui peuvent suivre le char Leclerc à la même vitesse, au même endroit, avec la même protection. Bon, le problème, c'est que c'est un coût, ça demande beaucoup de moyens, c'est peut-être pas tout à fait la même mobilité aussi, hein, avec des chars de 60 tonnes, on fait pas la même chose qu'avec des véhicules de combat d'infanterie de 30 tonnes, par exemple, de 20-30 tonnes même, etc., etc. Donc ça pose des tas de problèmes qu'on n'a pas forcément toujours résolus. Comment, sous le feu, on arrive à concilier des gars qui, au bout d'un moment, doivent débarquer. Soit ils restent à l'intérieur du véhicule. Et c'est très déplaisant de rester à l'intérieur d'un véhicule tout terrain alors qu'on vous tire dessus de tous les côtés. Et soit vous le faites débarquer et là vous êtes aussi, c'est aussi très déplaisant généralement parce que vous êtes dans un environnement très meurtrier.
Mais ça dure moins longtemps, ouais. Mais alors justement, donc là on parle de l'infanterie mécanisée. Mais enfin, est-ce que si on précise qu'il y a de l'infanterie mécanisée, c'est qu'il doit y en avoir qui est pas mécanisée. C'est-à-dire, on parle parfois, vous en avez. Vous lui avez fait un sort un peu rapidement tout à l'heure, mais on dit dire il y a de l'infanterie motorisée aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple pour décrire les forces russes. C'est pour ça qu'on en reparlera peut-être. Mais disons, à part l'infanterie mécanisée, quelle est la déclinaison grossière des troupes d'infanterie.
D'accord. Alors, ce qui se passe, on va parler aussi un peu des Russes quand même, c'est que cette infanterie, toutes les unités blindées ont eu tendance à phagocyter toutes les autres. Voilà, ce sont des unités indispensables du champ de bataille moderne. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Un char de bataille, il augmente de 10% par an, son prix d'achat, quoi, en moyenne. Hein, bon. Et pour tous les autres véhicules qui composent une division blindée, on va dire, appeler ça comme ça, une division mécanisée, c'est à peu près la même chose. Donc ça devient très, très, très cher. Et donc, comme on considère que c'est indispensable, on sacrifie un peu les autres. Et donc, vous avez une armée comme l'armée russe, par exemple, qui est une armée entièrement, alors, motorisée, eux, ils appellent ça motorisée, c'est une armée blindée, voilà, qui est blindée, véhiculée, avec uniquement sous blindage, y compris, d'ailleurs, les unités qu'on pourrait qualifier de légères, les unités parachutistes ou les unités d'assaut par air, elles ont également des chars de bataille, elles sont également sous blindage, etc., etc. Tout le monde dans l'armée russe, c'est à l'exception peut-être parfois même un peu des
Il parachute le véhicule blindé avec.
Oui, bien sûr. Non, alors c'est véhicules plus petits. En fait, c'est les mêmes. Dans les Russes, ils font toujours la même chose en l'améliorant, en le bricolant un petit peu. Et donc, ils ont des véhicules, leurs parachutistes ont des véhicules blindés, petits, de la gamme BMD, pour simplifier. Et donc, ils peuvent les larguer, ils peuvent surtout les transporter, les aérotransporter. C'est conçu pour ça, quoi. Bon. Mais ils peuvent faire sans aussi. Hein. Ça, c'est un peu la particularité. Mais ce que je veux dire, c'est que leur armée est entièrement blindé. C'est pas forcément partout. Même maintenant dans l'armée française, toutes nos unités sont également unités d'infanterie sont également blindées. Alors il y a d'autres spécialités que cette infanterie mécanisée ou motorisée. En fait, bon, distinction n'a pas beaucoup de sens en réalité. Hein, c'était tout le monde sous blindage. Mais vous avez par exemple une autre infanterie qui était spécialisée dans un milieu particulier, qui est par exemple l'infanterie alpine. Les chasseurs alpins, on considère quand il y a un milieu qui est très spécifique, on crée une infanterie pour s'adapter à ce milieu. Donc on peut avoir de l'infanterie de jungle, on peut avoir.
Et donc les chasseurs alpins, ils n'ont pas de blindés.
Maintenant, oui. Voilà. Le problème, c'est que. Ou les parachutistes. Les unités parachutistes aussi. Et puis finalement, au bout d'un moment, on se dit que.
Ce serait bien qu'au moins qu'ils puissent en avoir s'ils en ont besoin, quoi.
Bien sûr, c'est-à-dire que très concrètement, sauter en parachute, c'est bien. Une fois qu'on est en bas, on est un peu léger quand même. C'est un peu tout ça, toute la difficulté de l'infanterie, parachutée ou aéroportée. C'est pour ça que les Russes ont mis l'accent pour que les gars qui soient au sol soient le plus vite possible motorisés et blindés. Nous, on a mis un peu plus de temps à admettre cette révolution. Il est arrivé, ne serait-ce d'ailleurs que parce que pour être engagé en opération extérieure, parachutiste, alpin ou autre, il fallait être dans des véhicules blindés. Donc, pour le dire simplement, toute notre infanterie est blindée d'une certaine façon.
Et blindée ou blindable, au moins, en cas de besoin.
Non, c'est plutôt l'inverse, en fait. Elle est d'abord blindée, et parmi certains, certains peuvent sauter en parachute. On avait créé une infanterie aéromobile aussi, qui était pas mal. Maintenant, c'est terminé. Mais voilà, les chasseurs alpins, ils peuvent crapahuter à pied dans le milieu difficile, en montagne, mais ils peuvent aussi combattre en véhicule, l'avant blindé ou autre, comme les autres fantassins.
Alors justement, si on reste une seconde sur ces différentes identités, on va arriver au conflit. Mais c'est important, je crois, de comprendre ces philosophies, parce que vraiment, sinon, on comprend pas bien quels sont les enjeux de l'infanterie dans un combat de haute intensité. Et par exemple, quelque chose qui vous tient à cœur, mais les troupes de marine, qui ont fêté leurs 400 ans, je crois, cette année.
Oui, qui fêtent leurs 400 ans cette année, oui, effectivement.
Donc vous êtes issu des troupes de marine.
Exactement.
C'est blindé, enfin, on avait compris que c'est... les troupes de marine, les chasseurs, comment est-ce que ça coexiste, tout ça? C'est de l'infanterie, mais en même temps...
Non, il n'y a pas que de l'infanterie dans les troupes de marine. Il y a aussi des blindés de marine, qu'il ne faut surtout pas appeler cavaliers.
Ça devient compliqué.
Oui, non, mais c'est très compliqué, en fait.
D'autant que c'est important, parce que derrière toutes ces appellations, il y a une histoire, et on sait que les militaires sont très attachés à leur histoire et à leur identité qui en découle, donc faut pas...
On fait un petit historique, alors très bref. Non, les troupes de marine, comme leur nom l'indique, sont au départ, comme les Marines, comme les Américains, comme les Royal Marines, sont l'armée de la marine. Donc des gars qui sont sur les bateaux, qui combattent parfois d'un bateau à l'autre, ou surtout sont destinés à débarquer et à mener le combat à terre. Bon. Dans la particularité française, c'est que en 1900, l'armée de terre a récupéré toutes ces troupes de marine pour en faire l'armée coloniale. Bon. Et donc, c'était une armée qui était destinée, comme son nom l'indique, à essentiellement à défendre les colonies, parce qu'on ne voulait pas engager de conscrits à l'étranger, enfin au loin en tout cas, pardon. On a utilisé des locaux, et des locaux et des soldats professionnels, tout ça a formé l'armée coloniale, les régiments antérieurs, sénégalais, etc. etc. Bon. Et bien évidemment que lorsque les colonies ont disparu, la coloniale, elle, n'a pas disparu, mais a retrouvé son nom d'origine des troupes de marine, mais tout en restant dans l'armée de terre et en conservant des structures de spécialité de l'armée de terre. Donc dans les troupes de marine, vous avez des régiments d'infanterie, qui sont des régiments d'infanterie blindés, enfin qui sont... taillés, organisés comme les autres régiments d'infanterie motorisés, enfin blindés, on va dire. Mais vous avez des régiments de parachutistes, de troupes de marine, qui sont organisés comme les autres régiments parachutistes, etc. Vous avez des régiments blindés. Il n'y a pas de lourds, mais vous avez des régiments blindés, légers, qui sont organisés comme les autres. Il y a certaines spécificités un peu dans Pas forcément dans l'emploi tactique, hein, qui est exactement le même, mais dans le service qui est fait, les gens, les troupes de marine sont destinés à servir outre-mer, plus particulièrement. Voilà. Mais on va pas aller plus loin, mais on va dire que c'est plutôt surtout une appellation qu'une réalité tactique. Voilà. C'est comme la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est régiment étranger d'infanterie, ce sont des régiments d'infanterie organisés comme les autres. Comme les autres régiments d'infanterie français du même type. Dans la bataille ou la tempête, au refrain de malchanson, notre âme au danger toujours prête, brave la foudre des canons. Homme de fer que rien ne lasse, nous regardons la mort en face, et l'orage qui gronde,
mais alors, donc là, on a passé en revue ce que peut être l'infanterie, bon, en particulier appliqué au cas français, mais pas seulement. Maintenant, si on essaye de passer peut-être au contexte plus direct du conflit ukrainien, on peut peut-être détailler les spécificités de l'infanterie de part et d'autre. Notamment, en premier lieu, il y a un élément dont on a beaucoup parlé, de manière parfois un peu vague, c'est le BTG russe, le Bataillon Tactical Group, dont on a parfois dit que c'était une force et souvent une faiblesse de l'armée russe. Donc, qu'est-ce que c'est que cette structure chez les Russes? D'où est-ce qu'elle sort? Et qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Alors, ce qu'on appelle BTG, ou le groupement tactique, ça veut dire battle group, mais en français, groupement tactique, ou si on va être complet, groupement tactique interarmes, pour avoir l'équivalent un peu. C'est un concept russe qui date d'une dizaine d'années. et qui, enfin, ouais, c'est un mode d'organisation qui consiste à associer en réalité un bataillon d'infanterie blindée avec un bataillon d'artillerie. On va le dire comme ça. Et donc, on associe les deux et on fait une unité particulière qu'on appelle le groupement tactique, qui fait entre 700 et 900 hommes, en théorie, qui naît... Alors, il faut parler un peu des structures russes, parce que c'est... Il faut comprendre.
Ça tombe bien, on est là pour ça. On a le temps pour ça.
Et c'est un vrai problème, d'ailleurs. On va parler de l'armée de terre russe, et puis après, on va revenir au groupement tactique. Le problème de l'armée de terre russe, c'est que, d'abord, elle est coincée entre plein d'autres armées. C'est l'armée russe... la Russie... se veut une grande puissance militaire, dépense beaucoup d'argent pour ça, alors officiellement aux alentours de 60-65 milliards d'euros, c'est-à-dire en gros 50% de plus que nous, mais en réalité beaucoup plus, peut-être 150, 160 en prenant tout.
Mais notamment parce qu'il y a des avantages aussi le fait que c'est un système industriel intégré. Bref, on ne peut pas calculer les dépenses comme ici.
Pour donner un ordre de comparaison, c'est comme si, par rapport à nous, c'est comme si la Russie dépensait à peu près 150 milliards d'euros de dépenses militaires. Mais pour ça, elle doit se payer une force nucléaire de 6000 têtes nucléaires, équivalente un peu à celle des États-Unis, donc ça coûte pas mal d'argent, un quart qui va à une force aérospatiale, un quart qui va à la marine, et une petite partie qui va aux forces d'assaut aérien, les parachutistes, pour simplifier, qui est une armée à part, et puis tout le reste, ça va à l'armée
de terre. Les fameux VDV. Il y a une très belle chanson que je mettrai probablement dans le clip de recrutement à VDV.
Et reste l'armée de terre, quoi. Bon, et l'armée de terre, quand on vient dessus, c'est une armée de terre à la russe, c'est-à-dire qu'ils cherchent quand même à avoir de la masse. Il reste qu'à avoir une certaine quantité. Alors, particularité de l'armée russe, c'est qu'elle a repris un peu le costume matériel, même complètement d'ailleurs, de l'armée soviétique, mais avec beaucoup moins d'effectifs. Mais elle a conservé d'énormes stocks de matériel. Bon, c'est un avantage, mais en même temps, c'est un coût. Hein, et puis, il faut s'en occuper, il faut les gérer, il faut les garder. Donc là aussi, c'est quand même aussi une ponction de ressources. Et en même temps, comme je disais, ils veulent avoir pas mal d'unités de combat. Ils veulent former pas mal de fameux BTG, des groupements tactiques. Ils veulent en former, en février, il devait en avoir 168 au total. Bon, quelque chose comme ça. Mais problème, la Russie, c'est plus l'Union soviétique, des masses humaines, des vagues. Non, c'est terminé ça. La Russie est beaucoup moins peuplée que le Pakistan, il faut quand même le rappeler. Et en fait, le potentiel humain est relativement faible. Et comme ils ont voulu se professionnaliser complètement, avec une armée relativement importante, ils ont été coincés, c'est-à-dire que c'était pas super attractif quand même le métier militaire en Russie, et donc ça veut dire concrètement il manque de volontaires, il manque de professionnels, et donc ils ont conservé la conscription. Bon. Ils ont conservé la conscription pour compléter ces effectifs manquants. Problème, c'est que engagement en guerre, pas de conscrits. Sauf si la guerre est déclarée, qu'elle se fait, si le sol national est attaqué, etc. Mais une opération extérieure, guerre non déclarée, comme en Ukraine, pas de conscrits, en théorie. Mais même très largement en réalité, en fait. Problème, quand vous avez une brigade. Une brigade, c'est à peu près 3000 hommes. À l'intérieur de cette brigade de l'armée de terre, interarmes, avec des bataillons d'infanterie, de chars, d'artillerie, etc. Tout ça, c'est mélangé. Trop mélangé, mais bon, c'est mélangé. On leur dit, vous partez, il faut enlever les conscrits. Ils prennent là-dedans, et avec ça, ils forment des fameux bataillons, donc un peu de briques et de brocs, quand même. Ils forment, une brigade doit former peut-être deux groupements tactiques. C'est quand même un peu du bricolage.
Le problème en plus de ça, c'est que si on enlève les conscrits, c'est-à-dire si on modifie la structure avec laquelle on est censé s'être entraîné, en tout cas, il y a aussi un réapprentissage.
Il faut bien comprendre qu'il y a... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même un gros capharnaüm en termes d'organisation, en termes de structure de l'armée de terre russe. Où simultanément, il y a des armées. L'armée, c'est 15 000, 20 000 hommes. Il y en aura 9 qui vont être engagés en Ukraine. Et l'armée, elle va commander des brigades toute seule, puis elle va commander aussi des corps d'armée qui ont commandé des brigades. Puis après, entre-temps, on a recréé des divisions qui n'ont plus de brigades, mais des régiments. Et tout ça, c'est mélangé et engagé en Ukraine. donc on imagine en termes de réseau de commandement ce que ça peut donner.
On a très envie de voir quelque part le méga organigramme de l'armée russe.
Ah oui, oui,
de
non, comment, c'est, ça va ressembler. C'est un casse-tête. Bon, on pourrait en parler du pourquoi de cette affaire, mais et voilà. Et donc vous retrouvez les brigades, les régiments qui forment à leur tour des groupements tactiques. Et on revient à ces fameux groupements tactiques qui sont composés de troupes de combat, on va dire, chars, infanterie mécanisée, enfin infanterie blindée et artillerie. Bon. Les Russes adorent l'artillerie, c'est leur arme principale. Donc là aussi, dans cette ponction de ressources à l'intérieur même, je vous l'ai dit, à l'intérieur même des armées russes, ben, il ne reste plus grand-chose pour l'armée de terre. Et à l'intérieur de l'armée de terre, ben, il y a beaucoup qui va à l'artillerie. Les chars, bon, c'est plutôt sympa aussi, hop, et, les chars de bataille, c'est pas mal aussi. Donc au bout du compte, l'infanterie, ploup, elle est vraiment réduite au strict minimum, sachant qu'à côté, il y a les fameux VDV, qui pompe une grande partie de tous les bons soldats professionnels qui sont disponibles. Donc voilà, donc on se retrouve avec en réalité avec une infanterie blindée russe qui est très atrophiée, quoi, très faible.
Et qui n'a pas pris le haut du panier.
Et qui n'est pas forcément au top, effectivement. Et comme je disais tout à l'heure, ça c'est l'huile dans la grosse machine. Et donc c'est les groupements tactiques, c'est des grosses machines très compliquées. Vous avez généralement vous avez une compagnie de chars de bataille, puis vous avez deux, trois compagnies de fantassins, et puis vous avez une batterie de lance-roquettes multiples, une batterie d'obusiers de 152 mm par exemple, qui tire à 20-30 km. Vous avez une unité anti-aérienne, vous avez des anti-chars, etc. Donc déjà vous imaginez un peu la complexité à commander de ce truc, avec des éléments aussi différents. Particularité des unités russes, c'est que c'est super interarmes. On s'est dit, voilà, mélangeant tout le monde, on peut faire face à tous les problèmes. Ce qui induit, j'y reviens, une complexité de commandement qui n'est pas maîtrisée. Donc ça va être sous-utilisé, mais c'est un problème. Et puis ensuite...
Oui, parce que commander de l'interarme, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir une vision panoptique de ce que chacun peut faire.
Exactement. Et, donc et puis d'arriver à coordonner tout ça, c'est compliqué. Surtout quand vous avez un petit poste de commandement, que vous êtes tout seul et que vous avez 15 unités différentes à commander. Ce qui dépasse les capacités cognitives d'un individu moyen. Dans cette structure... Deuxième critère russe, ex-soviétique, c'est il faut que ça soit léger, que ça bouge, qu'il y ait une mobilité opérative. En gros, il faut que ça aille vite sur la route. Et donc pour ça, les véhicules sont réduits au minimum. Dans un char russe, il ne faut pas faire plus d'1m60, sinon vous êtes très mal, sinon vous vivez très mal à l'intérieur. Y a entre un char de bataille russe et un char de bataille occidental, il y a 20 tonnes de différence, et avec le même canon à peu près. Mais c'est pareil pour les véhicules de combat d'infanterie qui sont très déplaisants. Monter dans un BTR, c'est très moyen comme sensation au bout d'un moment.
Vous n'avez jamais testé?
Hein?
Vous avez déjà testé?
BTR, oui. Oui, avec des Ukrainiens. C'est pas terrible. Hein. Il faut bien le dire.
Ça soude la compagnie, on se rapproche.
Mais ça la dissout un peu aussi, quand même, au bout d'un moment, quoi, de route. Et donc, ces véhicules qui sont réduits, des unités qui sont elles-mêmes réduites au minimum. Une compagnie d'infanterie, parce qu'on parle d'infanterie, d'infanterie blindée, c'est 10 véhicules, par exemple. C'est 10 véhicules avec 10 petits groupes de combat à l'intérieur. C'est tout petit. D'une manière générale, il faut comprendre que, et ça aussi c'est un problème, la structure de l'encadrement n'est pas tout à fait la même entre les pays, ça c'est vieux, mais entre les pays occidentaux et la Russie. En gros, ce qu'on demande à un chef de section, un lieutenant russe, c'est ce qu'on demande à un sergent chef de groupe en France, par exemple. Il y a en termes de responsabilité, en termes de ce qu'on demande...
C'est-à-dire qu'il y a plus de responsabilité au niveau sous-officier, on a un des niveaux plus bas en France, on responsabilise plus les échelons les plus bas de l'encadrement, alors que sinon ça passe beaucoup par des officiers anciens.
Oui, voilà, ne serait-ce que parce qu'il manque cruellement de sous-officiers anciens, solides, des jeunes sous-officiers qui surtout ne prennent pas de responsabilité, enfin on leur donne pas du tout de responsabilité, quoi. Ils sont là pour appliquer des schémas très simples, mais le chef de section aussi. Donc c'est vraiment quand une section débarque de ces trois véhicules, tout serré, il y a trois petits groupes qui ils sont débarqués, qui généralement se mettent en ligne ou en colonne, c'est à peu près tout, et puis c'est tout quoi. Puis on avance, on s'installe, on recule, on date, enfin voilà, c'est vraiment, on fonctionne d'un bloc sous la direction du chef de section. Il n'y a pas beaucoup de souplesse, il n'y a pas beaucoup de manœuvre, et surtout il y en a peu. Il y a peu d'infanterie dans tout ça.
Vous avez... C'est-à-dire, il y a beaucoup de ressources pour l'artillerie, pour les chars,
oui,
etc.
Oui, voilà. Et... Donc, dans ce fameux groupement tactique, vous avez peut-être trois sections, vous avez peut-être six sections d'infanterie, six, neuf sections, grand maximum neuf sections pour quelque chose qui fait 800, 900 hommes. Et donc, il faut faire des missions de reconnaissance, c'est ce que j'y reviens. Hein. Il faut protéger les batteries, par exemple, d'attaque. Il faut protéger. Quand on attaque dans une direction, il faut peut-être essayer voilà, de s'installer en défensive dans l'autre. En fait, je dis ça, mais ils ne font jamais parce qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Donc, toute cette huile pour la machine, bah, elle manque. Sans compter que tout comme tout est calculé au plus juste, il y a un véhicule qui tombe en panne, ce qui arrive souvent, hein, il roule quand même sur des véhicules qui ont 40 ans de moyen âge. Hein, moyenne d'âge. Qu'est-ce qu'on fait des gens à l'intérieur? On ne peut pas les mettre ailleurs, tout est super serré, etc. Donc on les laisse en arrière, enfin c'est rapidement une unité russe, dès qu'il commence à y avoir des pertes, la Chine s'enraye très vite. Voilà. Et accessoirement, la logistique, c'est bien d'avoir des véhicules petits par certains aspects, hein, c'est des cibles un peu moins importantes, mais on transporte beaucoup moins de choses, alors des hommes, mais aussi, par exemple, beaucoup moins de munitions, beaucoup moins de vivres, des choses comme ça. Donc la logistique, elle est très tendue. Et donc il faut que derrière, il faut que ça suive, en camion, et c'est là où il y a un paradoxe, c'est-à-dire que on recherche la mobilité opérative, on recherche aller à plus de 10-20 km par jour, foncer à l'intérieur de dispositifs ennemis, derrière, ça a beaucoup de mal à suivre, parce qu'il faut des camions, pour le coup, qui ne sont pas forcément tout terrain, et puis, comme ce sont des unités qui sont très lourdes, leur base arrière, c'est vraiment, ça tout passe par les voies ferrées, et dès qu'on sort, on descend de la voie ferrée, et de la gare, et qu'on s'enfonce dans le territoire, ça devient de plus en plus compliqué, ça passe par des camions, ils doivent porter, il y a beaucoup d'artillerie, donc beaucoup d'obus, et ça, c'est très très lourd, ça pèse énormément dans la logistique, beaucoup de véhicules, beaucoup de carburant aussi.
Les obus, on ne mesure pas, mais je ne sais plus, c'était Joseph Valentin qui disait que c'était en Irak, c'était une proportion, mais délirante, c'est pas la moitié des flux logistiques, mais c'est pas loin. Quoi.
C'est long. Obus plus carburant, c'est 80 à 90% de la logistique. Le reste, les petites munitions pour vos Kalachnikov ou la nourriture, c'est tout petit. Quoi, hein. La moitié, ça va être les obus. La moitié dans une armée russe, la moitié camion, ça va apporter les roquettes pour les lance-roquettes multiples, à peu près. Quoi. L'artillerie, c'est bien, ça a plein d'avantages, mais ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que ces unités qui sont censées être très mobiles, au bout d'un moment, d'abord, elles s'enrayent très vite. Dès que ça coince un peu, dès qu'il y a des pertes, dès que ça casse, et puis tous les 3 ou 4 jours, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien. Quoi. Donc ça, c'est très compliqué. Mais les Russes n'ont que ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. À part les fameux VDV, les unités qu'ils ont utilisées au début pour notamment pour lancer un raid aéromobile pour s'emparer de l'aéroport de Gostomel au nord de Kiev, un truc assez audacieux, hein, mais qui n'a pas marché. Et depuis, ils sont utilisés comme de l'infanterie normale, quoi, y compris avec leurs véhicules légers, etc. Donc les Russes n'ont quasiment que ça. Et ils s'aperçoivent très vite qu'ils n'en ont pas assez et pas assez de bonne qualité. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment dans certains milieux.
Et alors, de l'autre côté, il faut peut-être dire un mot de l'infanterie ukrainienne. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'elle est différente ou semblable? Enfin, on sait que pour plein de trucs, l'armée ukrainienne est issue de la grande armée soviétique. Donc, il y a aussi forcément des similarités dans l'organisation, etc. En même temps, ça fait 8 ans qu'ils sont en guerre et que probablement ils se sont adaptés, ils ont pris leurs propres particularités depuis 30 ans et la chute de l'URSS. Donc, voilà. En face, qu'est-ce qu'il y a?
En face, il y a, en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs armées. Là où les Russes n'ont finalement qu'un modèle d'armée, blindé, destiné à bouger très vite, à attaquer. Eux, ils en ont deux, au moins deux. Le premier, il est assez proche de celui des Russes, de toute façon, effectivement, comme on l'avait dit, c'est le même héritage. Ils ont quasiment les mêmes matériels, les mêmes chars de bataille, les mêmes véhicules d'infanterie, c'est à peu près la même chose. Donc, ils ont constitué des unités un peu différentes. Ils n'ont pas les groupements tactiques, par exemple, ils ont les choses un peu plus simples, un peu plus classiques, des bataillons d'infanterie, alors, qui sont aussi un peu interarmes hein, dedans, mais toujours un peu de chars.
Deux, trois canons, 4-5 chars pour faire.
Ouais, c'est surtout infanterie, chars. Après, eux, par contre, ne mélangent pas trop avec l'artillerie un peu à part. Ce qui fonctionne mieux, à mon sens. Hein. Mais bon, en gros, voilà, c'est pas très différent. Ce qui est différent, alors, c'est souvent ce qui est invisible. Les Ukrainiens ont fait beaucoup d'efforts, eux, de formation, d'instruction, et notamment pour se créer des sous-officiers. Donc avec l'aide des Américains en particulier, hein, ils ont mis beaucoup de gens en formation, en instruction, ils ont essayé de se constituer un corps de sous-officiers autonomes, ils ont essayé de décentraliser un peu. Les innovations sont à la fois, je veux dire, sociales, sociologiques et culturelles.
Alors justement, parlons-en peut-être un peu, parce que c'est un truc qu'on dit souvent, c'est un truc dont on parlait avec Ryan Nandalé encore il n'y a pas si longtemps sur l'artillerie. Qu'est-ce que ça fait de différent d'avoir plus de sous-officiers, puisqu'on dit beaucoup que c'est une des faiblesses de l'armée russe, oui, de ne pas en avoir. Ça vous parle forcément, puisque je peux rappeler que vous étiez à la base, oui, sous-officier avant de migrer vers officier, donc vous, voilà. Vous en avez une connaissance, disons, intime. Qu'est-ce que ça fait d'augmenter la proportion de sous-officiers, leurs compétences aussi, j'imagine, dans une armée ?
Ça apporte énormément de choses. Ça apporte d'abord de la souplesse tactique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on a inventé le chef de groupe, on dit, voilà, bah, tu as une responsabilité tactique, tu assures des missions comme un officier. Voilà, ce que quand bah, vous n'avez pas de sous-officiers bien formés, bah, c'est compliqué à faire. Donc les sous-officiers russes sont quand même surtout des exécutants, mais je veux dire, même leurs officiers en réalité, hein, qui sont formés quand même, au moins jusqu'à un certain échelon, à l'obéissance. Quoi, hein. Leur qualité première, c'est d'obéir à l'ordre donné et à appliquer des schémas précis, à savoir quel schéma appliquer sur l'ordre donné. C'est à peu près tout ce qu'on leur demande. Bon. Là, on n'est pas dans ce cas de figure et on a quelque chose de beaucoup plus souple et avec, au bout du compte, des sergents ou même les chefs de section qui sont sous-officiers aussi chez nous, ce qui est quasiment pas le cas dans l'armée russe. Ce sont des gens qui... par ailleurs, ont d'autres missions, une mission d'assurer le calme un peu dans la tempête, d'assurer, de verrouiller un peu, éviter les grosses conneries, jusqu'aux exactions. Je veux dire simplement, c'est que c'est le système nerveux. C'est presque une banalité de dire que voilà, les sous-officiers, c'est le système nerveux d'une armée, et en même temps, c'est les gens qui verrouillent, qui contrôlent, une armée, c'est normalement quelque chose de très structuré, très encadré. Quand un soldat, il a un chef d'équipe au-dessus de lui, qui est normalement un soldat un peu plus ancien, un caporal-chef, chose qui existe très peu, là aussi, dans l'armée russe. Hein. Puis, au-dessus, effectivement, vous avez un chef de groupe, qui peut être un caporal-chef, un sergent, etc. Donc, c'est très structuré, très encadré, avec des gens qui sont plus anciens, plus mûrs. Mûr dans l'armée, c'est à partir de 25 ans, quoi. À peu près, à partir du moment où vous avez quelques années quand même de service. Mais c'est fondamental, hein, des armées qui n'ont pas ça. Même l'armée américaine, c'est une armée où il y a beaucoup de turnover et du mal à trouver des...
Justement, c'est intéressant parce que l'armée américaine, on sait que c'est une armée où traditionnellement les sous-officiers sont très importants. Enfin, oui, il y a toute une littérature et même des films, etc., sur, oui, le cliché de l'officier incompétent par rapport au sous-officier, oui, qui est le sel de la terre et qui tient le groupe et qui tient l'unité. Et on voit la différence entre ce modèle-là, un modèle intermédiaire un peu comme la France peut-être, oui, et à l'inverse, le modèle russe tel que vous nous l'écrivez, où c'est un corps un peu oublié, quoi, un peu chanté.
Oui, oui, c'est vrai. C'est exactement ça. L'armée américaine est en fait une tradition britannique avec un corps de sous-officiers vraiment à part. Les sous-officiers, par exemple, dans l'armée américaine, sont notés, leur notation annuelle, individuelle, par d'autres sous-officiers. Leur carrière est gérée par d'autres sous-officiers. Il y a une hiérarchie spécifique de sous-officiers, c'est un corps à part. En France, non, les choses sont un peu mélangées. Beaucoup de sous-officiers peuvent devenir officiers. Comme moi, par exemple. Hein, bon. Aux États-Unis, c'est plus compliqué, par exemple. On reste sous-officier. Bon, ce qui peut avoir aussi d'autres avantages, hein, par ailleurs. Ou dans l'armée britannique, voilà, on reste sous-officier. Bon. Donc c'est vraiment une structure. Mais la différence qu'il y a, c'est que, par exemple, moi j'ai travaillé avec le corps des Marines, par exemple, c'est de tomber sur des soldats qui étaient souvent jeunes, avec beaucoup de turnover, on fait des carrières relativement courtes. Et donc, ça permet difficilement de sécréter, plus difficilement de sécréter des sous-officiers anciens qui vont rester, qui vont devenir, voilà, ces fameux sous-officiers anciens.
Ce qu'il faut dire, voilà, derrière le cliché du sergent-chef, qui est rempli, enfin, suffit de penser à Full Metal Jacket ou n'importe quoi, ouais. C'est-à-dire l'espèce de maton, enfin, de corps disciplinaire, il y a aussi derrière un savoir-faire institutionnel que ce corps-là est chargé de transmettre. Mais alors donc, on voit que ces Ukrainiens ont leur proportion de sous-officiers qui augmente. Vous avez dit qu'il y avait un deuxième modèle d'armée de terre.
Oui, il y a ce premier modèle, voilà, qu'on va appeler l'armée de manœuvre, hein, l'armée de manœuvre, assez classique. Et puis il y a une deuxième armée qui est essentiellement une infanterie, qui sera une armée essentiellement composée de réservistes et qui sera destinée à tenir le terrain. C'est l'armée territoriale, mais c'est aussi la garde nationale qui est gérée par le ministère de l'Intérieur et qui, à la mobilisation, forme des brigades. Et des bataillons, essentiellement des bataillons d'infanterie, et qui sont destinés à aider, compléter l'action de cette armée de manœuvre, et notamment à tenir aussi le terrain. Donc ils sont dans certaines zones, alors souvent des villes, ils sont dans les villes, et puis ils aident, ils collaborent avec les troupes de manœuvre pour tenir, aider, faire de la guérilla, renseigner, etc.
Alors eux, justement, ils ne sont pas mécanisés, quoi. Ils ne sont pas blindés, ils ne sont pas mécanisés, c'est plutôt de ces petits pions tactiques qui sont l'image d'Épinal de l'infanterie.
C'est plutôt de l'infanterie légère. Alors, ils peuvent être sur véhicule. Hein. Peut-être un peu de briques et de broc parfois, mais ça peut être un véhicule léger, ça peut être du pick-up, ils utilisent beaucoup de voitures civiles aussi, tout simplement. Enfin bon, c'est un peu du bricolage. Mais l'idée générale, c'est que voilà, on a sur une infanterie qu'on va qualifier de légère. Et qui fonctionne bien lorsqu'elle est associée à un terrain difficile. C'est toujours pareil, hein. Et donc souvent, notamment les villes, donc particularité du combat moderne en Europe en particulier, et notamment en Ukraine, c'est que y a beaucoup de villes. Vous avez 83 villes de plus de 100 000 habitants en Ukraine, donc mécaniquement, si j'ose dire, vous allez buter dessus, quand vous voulez envahir le pays, vous allez buter sur des villes. Hein. Et donc les villes, il faut s'en emparer. Et c'est là que se trouve un peu le problème majeur pour les Russes, c'est qu'ils ont une armée de route. Il faut imaginer
pour saisir la plaine, c'est bien pour s'emparer d'une ville,
voilà,
c'est compliqué.
Et puis c'est pas une armée très volumineuse, quoi. Et donc il faut imaginer que on est en 1940, la France est attaquée par une armée allemande qui est réduite à ses 10 divisions blindées, voilà, et vous avez l'armée russe actuelle qui attaque l'Ukraine. Donc vous voyez que c'est pas en termes de volume. Alors ça peut être puissant, mais
ça perce bien, mais ça
perce bien, mais ça fait aussi beaucoup de flèches.
Ça coagule pas forcément.
Dès qu'on bute sur une ville, la ville, il faut s'en emparer. Et c'est là qu'intervient l'infanterie pour combattre en ville. C'est un milieu qui est très coupé, très protégé. Enfin, à partir du moment où c'est dense, c'est l'infanterie qui a quand même le premier rôle. À l'école de guerre, quand il y a une blague qui dit que voilà. Devant une carte, il faut installer un dispositif. Là où c'est blanc, il faut mettre des chars. Et là où c'est vert ou gris ou foncé, il faut mettre de l'infanterie. Mais c'est pas complètement idiot.
Oui, parce que rappelons qu'un char dans une ville, c'est pas ça que ça sert et c'est pas très confortable.
Alors ça peut avoir, ça peut avoir de l'intérêt parce que ça reste quand même un engin très protégé.
Y a beaucoup de choses strap aussi.
Oui, non, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'on voit d'ailleurs en Ukraine, hein, c'est que beaucoup de véhicules sont tapés sur les toits. Le toit, on peut pas être blindé de partout, hein. Et donc généralement, le toit, c'est l'endroit d'un véhicule blindé, c'est la zone la plus faible. La moins protégée en tout cas. Bon, et vous rentrez en ville, si à partir du moment où vous avez des immeubles de plus de 3 étages, vous pouvez avoir des gens qui sont avec des lance-roquettes qui vous tirent dessus très facilement sur les toits et qui percent. Et quand on perce un char russe, ça atteint vite les obus qui sont sous les pieds de l'équipage et qui le font exploser.
Ça, rappelons que c'est encore une spécificité russe, mais qui a trait avec ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'ils sont plutôt moins lourds, moins volumineux que les chars occidentaux. Du coup, ils ont vachement rationalisé l'espace et ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre les trucs qui explosent sous le type qui est le canon, quoi.
Ben c'est, ça marche bien à partir du moment où ça tape pas soit dessus, soit de dessous, par exemple, avec une mine. Le design, on va le dire simplement, le design des véhicules russes est déplorable, quoi. Mais les Ukrainiens ont les mêmes, hein, il faut le rappeler.
Oui, mais eux, ils n'ont pas tellement à prendre des villes. Enfin, en tout cas,
oui, non, mais la différence, c'est que voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bataille de chars en Ukraine. Il n'y a pas de grande bataille. Hein, il n'y a que des batailles dans les espaces coupés. Vous pouvez le dire autrement, les Ukrainiens n'ont accepté la bataille que dans des espaces fermés, solides, qui tenaient, quoi. Et pour le reste, ils ont mené de la guérilla sur toutes ces fameuses flèches, et notamment sur la logistique qui était obligée de s'engouffrer dans ces flèches qui est devenue vulnérable. Et bien là, les Ukrainiens ont attaqué. Ils ont attaqué avec tout, et c'est l'infanterie qui a souvent le premier rôle avec tous les équipements qu'on a envoyés, anti-char, tous les missiles, javelines, les roquettes Enlow, plein de trucs très modernes qui tapent, qui attaquent en cloche, qui tapent.
Ouais, sur le toit. Alors on l'avait expliqué dans l'émission sur le char, mais on peut rappeler que ces missiles, c'est des, qu'on appelle top attack, c'est-à-dire au lieu de venir taper le nez du char, juste devant le char, ils s'arrêtent, ils font une cloche et ils redescendent.
Ils ont été conçus pour taper, voilà, sur des engins qui restent de la génération adaptés en gros au tir de missiles tout droit. Et qui ne sont pas encore. Voilà, mais on a sensiblement le même problème.
Non, et puis par ailleurs, c'est toujours un truc entre le glaive et le bouclier. Quoi. Ça s'adapte. Les Russes ont essayé des trucs, des cages de fer pour faire.
Exploser les charges creuses avant de toucher le blindage.
Ça marche moyennement et ils ont eu tendance à les démonter eux-mêmes parce qu'ils sont aperçus que ça limitait leur champ de vision. Bon, peu importe. Mais dans tous les cas, fait est que les chars ont de grandes vulnérabilités, y compris et surtout en milieu urbain, ce qui fait qu'il vaut mieux envoyer l'infanterie.
Les chars, encore une fois, les chars, les véhicules blindés d'infanterie aussi, enfin voilà, mais qui ont aussi de l'armement de bord, etc. Particularité, là aussi, une des faiblesses des chars, c'est que le débattement des tubes n'est pas normalement, ils ne sont pas destinés à tirer sur des...
Là, vous faites un geste extrêmement peu radiophonique, mais vous montrez que le débattement, ça veut dire que ça ne monte pas au-delà d'une certaine hauteur, ce qui fait qu'effectivement, s'il s'agit d'aller taper un objectif pas trop loin en hauteur et qu'il faut mettre de l'angle...
Taper haut dans les étages, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avec un char, alors que le fantassin qui est avec un lance-roquette dans cet étage, lui, peut vous taper. Voilà. Donc oui, pour simplifier, ça pose beaucoup de problèmes aux véhicules. On peut les utiliser parce que ça a un certain intérêt parfois dans certaines zones, parce que justement il y a du blindage et on revient un peu au combat de tranchées, hein, d'une certaine façon, hein, l'utilisation des chars pour se protéger. Enfin, donc c'est, mais d'une manière générale, c'est un combat qui est très compliqué en ville, où le défenseur est caché. Protégé et caché. Il faut plusieurs centaines d'obus pour tuer un homme dans une ville. Hein. Si on fait le ratio de combats à Mariupol, par exemple, des centaines de milliers d'obus tués, lancés, et puis le nombre de combattants qui ont été tués, vous obtenez ce genre de ratio. Quoi.
Il y a eu des moments où je me suis demandé s'ils n'avaient pas une date de péremption sur les obus pour vouloir les vider les stocks à ce point-là. Quoi.
Ouais, c'est possible. Hein. Oui, il y a un peu de ça. Hein. Je pense que ça va être d'ailleurs plutôt des vieux obus. Il doit y avoir beaucoup de problèmes aussi, au passage. De rater. On le constate d'ailleurs ailleurs, hein, par ailleurs, hein, par les missiles, beaucoup de ratés. Mais pas que, hein, les missiles que nous on envoie aussi, ça fait dizaines d'années qu'on n'en produit plus, ils viennent des stocks, les Stinger qui ont été envoyés par les Allemands, il y en a beaucoup qui ont été ratés, enfin bon.
C'est comme ça, les armes, surtout quand elles vieillissent, elles marchent moins bien.
Ben oui, quand on ne s'en sert pas, ça marche moins bien.
C'est bien ces Ukrainiens avec cette infanterie donc à deux vitesses, en quelque sorte, avec des unités très professionnelles et puis cette espèce de guérilla institutionnalisée, etc. Alors, juste pour rester une seconde, ils sont bien équipés de part et d'autre. C'est-à-dire, on a beaucoup glosé sur le fait qu'ils envoyaient des vieilleries absolues pour les chars, des T-64 et parfois des T-55, etc. Je parle des Russes, mais d'ailleurs les Ukrainiens aussi. Est-ce que, pour ce qui concerne l'équipement de l'infanterie, que ce soit les fusils mitrailleurs ou même les véhicules, est-ce qu'on est sur ce même genre de problème de vétusté ou est-ce que c'était des armées qui avaient réussi à se renouveler un peu plus?
On est globalement plutôt sur ces équipements. Hein. Mais les armées en Ukraine, ce sont des armées qui ont remonté le temps. Hein. Il faut imaginer que voilà, on prend des armées de 1980, hop, on les téléporte aujourd'hui et puis voilà, ça y est, on a la guerre. L'armée russe en Ukraine, c'est quasiment l'armée que, lorsque j'étais sous-officier dans les années 80, je me préparais à affronter en Allemagne.
Et c'est l'armée qu'on voit dépeindre dans Tempête Rouge, on parlera à chaque fois que vous serez
là. On y revient, Tempête Rouge, oui, c'est l'armée de Tempête Rouge qui a remonté le temps. Bon, accessoirement, les armées occidentales ne sont pas forcément beaucoup plus modernes. L'armée américaine, c'est toujours l'armée de Reagan. Enfin, l'US Army, c'est toujours l'US Army de Ronald Reagan.
Plus les F-35, ce qui fait une différence énorme.
Oui, je parlais de l'US Army. Pardon. Oui, mais même l'US Air Force, on est encore sur du F-16, du F-15, on est encore sur des équipements de l'époque, hein, globalement. En termes de l'infanterie en Ukraine, elle est... Oui, ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Donc, les Russes ont des AK-12 à la place des AK-74. Enfin, bon, c'est toujours la même, fondamentalement.
Ça marche bien, ça ?
Oui, ça marche bien, c'est rustique, c'est bon, c'est... Mais il faut bien comprendre que le combat d'infanterie, puisque on va reprendre un petit peu, il a... Techniquement, il n'a pas énormément évolué, quoi, depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous prenez des unités, bonnes unités, je sais pas moi, des unités de parachutistes allemands de 1944 qui combattaient en Normandie, vous les amenez, vous les téléportez là aussi aujourd'hui, sur le champ de bataille, bah, ils se débrouillent bien. Hein, ils sont bien, relativement bien équipés, ils ont déjà des fusils d'assaut pour certains, ils ont déjà. Bon, ça tient la route. Le seul changement, ça tient un peu dans les communications, dans l'optique de nuit, des choses comme ça. En termes de pur combat d'infanterie, il n'y a pas eu la même évolution que dans d'autres champs, par exemple. Comme je disais, on peut se battre contre des parachutistes allemands de 44, et ils peuvent nous vaincre, hein, en termes d'infanterie contre infanterie. En revanche, vous prenez deux avions Rafale et puis deux Focke-Wulf 190, il n'y a pas photo. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une stagnation dans le combat d'infanterie. Il y a eu une évolution extrêmement lente, parce que peut-être on butait sur un certain nombre d'optimum matériel, hein, technique. Ce fantassin ne peut pas porter non plus au-delà d'une certaine quantité de charges, de protection, de trucs. Et puis aussi parce que ce n'était pas la priorité. Quoi. Le fantassin, ça n'a jamais été la priorité des investissements. Hein. Jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il tombe, on se rend compte qu'il constitue 80% des pertes. Et puis on se dit, tiens, oui, effectivement, on commence à en manquer et donc on va peut-être faire un effort là-dessus. Quoi. C'est une constante, hein, de toutes les guerres.
Крутые парни по всей стране, кто связан дружбой с ВДВ, такое братство, надежный щит, никто Россию не победит. ВДВ, с неба привет, ультрамариновый набогерет, денег с волной и море погон, с неба навеки десант обручен. ВДВ, сколько побед, из парашютов белый букет, радугой мирной порядку пала, слава десанту, честь и хвала. В Центральном парке салют в Москве, мечтают парни о ВДВ, любым оружием владеть легко, с нами победы главней всего. ВДВ, с неба привет, ультрамариновый набоберет, тельник с волной и море погон, с неба навеки десант обручен. ВДВ, сколько побед, из парашютов белый букет, радугой мирной порядку пала, слава десанту, честь и хвала! Честь и хвала!
Mais alors justement, comment est-ce que, puisqu'on parle des pertes, puisqu'on parle de la manière dont ça a tourné, comment est-ce que l'épreuve du feu, littéralement, a infléchi la perception qu'on en avait? C'est-à-dire, bon, c'est des armées qui avaient une réputation, et on peut dire que la réputation de l'armée ukrainienne n'était pas hyper brillante à l'issue de 2014-2015. La réputation russe l'était un peu plus, parce qu'ils avaient eu des engagements, mais d'ailleurs on peut en parler, quoi. C'est-à-dire, quelle image on avait de ces armées de terre, de ces infanteries, dans leur savoir-faire, dans leur expérience, dans leur équipement, dans leur capacité opérative, quoi. Et comment est-ce que, bon, les premiers temps de la guerre, dans lesquels on est encore, ont révélé des choses par rapport à ça?
Ce qui est intéressant, c'est dans cette guerre de 2014-2015, effectivement, l'armée ukrainienne s'est avérée être un peu une armée Potemkine, hein, c'est une armée un peu creuse. Hein. Mais bon, avec quand même quelques unités, il y a eu une sous-armée qui s'est créée à partir de ce cadavre. Enfin, il y a eu et puis il y a eu c'est un élément important. On parlait d'autres unités d'infanterie, ces unités d'infanterie irrégulières, c'est-à-dire que là aussi il y a une formation de plein de milices, plein de bataillons de volontaires. Ça, c'est un phénomène nouveau. Alors, militairement, pas forcément, mais sociologiquement, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez des bataillons qui sont créés, des oligarques qui ont créé leur propre régiment. Il y a eu des régiments formés sur Facebook, enfin des bataillons formés sur Facebook, financés par crowdfunding, etc. Puis vous avez des partis politiques qui ont créé leur milice, dont le régiment Azov, etc.
On en parle tellement. Enfin, je veux dire, faut en parler, mais on parle tellement du régiment Azov, est-ce que c'est des nazis, est-ce que c'est pas des nazis, etc., que ça obère totalement le fait que c'est un phénomène sociologique très généralisé. Azov était apparemment un régiment qui était très bien équipé, oui. Plutôt qu'il y avait un vrai savoir-faire. Au-delà du fait qu'il y avait des nazis dedans, il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui, oui.
Mais au-delà de Azov, Azov est le premier, mais vraiment pas
le seul.
Non,
mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est-à-dire, un truc qui m'avait frappé, c'est le premier jour de la guerre, vous avez l'ex-président Porochenko qui apparaît à l'écran en disant « voilà, moi je vais me battre ». Et il est entouré de sa propre milice. Donc le premier truc qu'il a fait, il a créé sa propre armée privée. Quoi. C'est quand même l'ancien président, quoi. C'était le représentant d'institutions. Mais donc c'est quelque chose qui est toléré en Ukraine, mais c'est valable aussi du côté des séparatistes qui ont des bataillons en Somalie. Enfin, il y a plein d'unités comme ça, irrégulières, qui sont intégrées un peu, qui sont un peu comme des unités de corsaires, un peu, qui sont intégrées en parallèle de l'armée irrégulière. Bon voilà, mais sachant que, alors pour en dire quelques mots simplement, c'est que au départ, oui, il y a des noyaux, souvent des noyaux politiques qui constituent un cadre et qui sont rejoints en réalité par plein de gens qui n'ont pas forcément de... qui sont, on va dire simplement, qui sont patriotes, qui ont envie de se battre, qui se méfient. On oublie ça en France, qui se méfie un peu de l'État, de l'administration, de l'État, etc., qui est un peu de sa corruption, etc., qui se dit, tiens, là, je vais...
un peu corrompu, l'État ukrainien est très, très, très corrompu.
Ah, donc complètement, il est encore plus corrompu que l'État russe, ce qui est dire. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, des citoyens, des volontaires qui disent, ok, mais moi, je préfère aller rejoindre cette unité, les mecs se battent, j'y vais tout de suite, je passe pas par un processus administratif, machin, ok, là, bah, je suis intégré tout de suite dans le dispositif, visiblement...
Pas très bien ce que ça attire, enfin, bon, ça a les défauts de ses qualités, évidemment, mais un jeune de 18-20 ans qui veut se battre, défendre sa patrie, soit que la guerre soit déclarée, soit qu'il se pense que la guerre va arriver, il y a un truc de... Ouais, il passe pas les sélections, il passe pas l'intégration, il passe pas l'embrigadement...
C'est souvent aussi simple que ça, quoi.
Donc, voilà, il a une arme, on lui fait tirer sur des trucs, et c'est probablement un peu plus exaltant que les processus des armées régulières.
Exactement. Et donc, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent, et puis je dis, tiens, ouais, bah, ces mecs-là, ils se battent plutôt pas mal, et c'est plutôt prestigieux, bon, ok, je les rejoins, quoi. Ce qui dilue souvent, d'ailleurs, complètement le contenu politique initial qu'il peut y avoir. Donc, vous avez plein d'unités, hein. Vous avez l'unité Kraken, vous avez l'unité le Duc, vous avez plein d'unités comme ça.
Avec des noms autrement plus cool d'ailleurs que beaucoup d'unités régulières. Mais non, mais du coup, la question, c'est aussi comment ils s'équipent.
Oui, alors là aussi, c'est un peu du bricolage aussi. Mais ce qui est intéressant, notamment en particulier dans l'armée ukrainienne, c'est que justement, vous avez beaucoup de gens qui arrivent, et parmi ces unités corsaires, vous avez par exemple, pas forcément des unités d'infanterie, hein, mais vous avez des gens qui disent, nous, on va former une unité de reconnaissance par drone. Donc ils récupèrent des drones civils, hein, du commerce, qu'ils achètent, qui bricolent, et avec ça, ils font une petite unité de reconnaissance. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est arrivé de plein de volontaires civils qui s'intègrent dans les différentes structures et qui apportent des choses.
Et ça, on mesure bien que ça marche sur le deuxième modèle ukrainien que vous avez décrit. Des bataillons irréguliers, etc., c'est pas eux qui vont se mettre à avoir des véhicules blindés, du gros équipement, d'infanterie mécanisée. Mais dans cette espèce de gradient de guérilla, ils s'intègrent assez bien.
Mais oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça est bien intégré, effectivement, y compris par les structures de l'armée régulière, simplement en termes de renseignements. L'armée ukrainienne doit être l'armée la plus numérisée au monde actuellement. Donc ça, c'était un rêve qu'on avait dans les armées occidentales. Donc imaginez des gros systèmes avec... Voilà, quand vous avez plein de gens qui arrivent avec des smartphones, qui arrivent avec des drones civils, et grâce à une liaison, merci Elon Musk, grâce à une liaison Internet qui est toujours maintenue, eh ben, vous avez, d'un coup, vous avez une armée qui a beaucoup de renseignements. Elle combat chez elle, connaît le terrain. Et donc, vous avez une supériorité de renseignements qui est considérable vis-à-vis, qu'ils soient opératifs. On voit les grandes colonnes, on voit où sont les Russes. Et puis, au niveau tactique, on voit arriver les véhicules, on sait où ils sont. Et c'est une raison pour laquelle l'immense majorité des combats sont à l'initiative des Ukrainiens. Au moins dans cette première phase de la guerre, la phase mobile. Et donc, il y a pas de grandes batailles, mais il y a une multitude de petits accrochages, de petites embuscades, où les Russes, où les Ukrainiens tirent les premiers, et tirer le premier, c'est dans 80% des cas, être sûr au moins de faire quelques dégâts. Partir, la tactique de base, c'est ça, hein, c'est... On repère une colonne qui est en général russe, qui arrive, qui est un peu mal organisée, qui est on tend une embuscade, on envoie quelques obus un peu ensuite précis, très vite, on détruit quelques véhicules et puis on se barre avant que l'artillerie russe, elle, n'intervienne.
Ouais, il y a 22 slogans comme ça, c'est shoot and scoot ou fight and flight, etc. C'est l'idée de la mobilité, on arrête le truc.
C'est le truc que moi j'avais appris quand j'étais sergent, on me dit voilà, contact avec, à l'époque soviétique, dans les 15 minutes qui suivent, il y a des obus qui tombent. Et donc, là, 15 minutes pour faire le boulot, quoi. Donc, détruire un véhicule, deux, etc. Enfin, ou faire quelque chose, et puis après...
Et ensuite, rembarquer.
Et ensuite, partir, aller un peu plus loin. Voilà, et c'est globalement ce qu'ont fait beaucoup d'Ukrainiens, avec ces fameuses... C'est moi, ce qui me frappait dans l'infanterie, quand je voyais les images de l'infanterie ukrainienne, c'était la quantité d'armes anti-char qu'ils avaient, quoi. Très différentes, ce qui va être un casse-tête... à utiliser, mais...
Oui, et puis logistique aussi, et parce que ça fait
sûr.
Autant de munitions différentes, mais...
Oui, non, mais c'est... Mais, voilà, une énorme densité d'équipement anti-char, et ça fait beaucoup de dégâts. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est que ça permet de résister en ville. Il y a une ville qui est tombée au début, après... Enfin, les Russes ont eu quelques succès dès les deux, trois premiers jours. Bon, par surprise, dans le sud. Il y a eu un combat à Kherson qui a duré une semaine, et ce qui est intéressant, c'est finalement leur seule victoire urbaine après combat, à part Mariupol, il reviendra. Mais c'est parce que, ben justement, peut-être qu'ils avaient engagé ce qu'ils avaient de mieux en termes d'infanterie à ce moment-là, donc la 7e division d'assaut aérien, donc des parachutistes, des mecs russes.
Puis Kherson, on peut rappeler que c'est dans le sud, et que c'est globalement l'offensive sud des Russes depuis la Crimée, qui est celle qui a le mieux réussi, probablement, parce qu'ils y avaient mis leurs meilleures unités.
Exactement, bonnes unités, ils ont bénéficié à surprise, donc en face, quand il y a un grand succès, c'est qu'il y a un très bon et généralement un mauvais en face. Je pense que les Ukrainiens se sont fait surprendre, ils n'étaient pas bien organisés, donc ils se sont fait avoir. Donc il y a eu un seul combat urbain, c'était Kherson, qui a été réussi par rapport aux Russes. Tout le reste, dans le nord du pays, Tcherniv, Soumy, Nijin, etc. Enfin bon, ils ont été incapables de s'emparer d'une seule ville. C'était buté à chaque fois sur cette affaire. Et en même temps, comme ils pénétraient à l'intérieur du territoire, mais ils étaient harcelés de tous les côtés. Ils ont perdu beaucoup de monde. Là, c'était une catastrophe. Et au bout d'un moment, ils se sont retrouvés empêtrés dans cette zone et étaient obligés de se replier. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que alors c'est bien pour résister, c'est bien pour faire des dégâts, etc. Mais les Ukrainiens n'ont pas détruit une seule brigade.
Il n'y a pas de capacité d'arrêt.
Ils n'ont rien détruit. Ils n'ont pas détruit une brigade complète. Ils n'ont pas encerclé quoi que ce soit. Ils n'ont pas repris de grandes positions aux Russes. Donc, pour le dire simplement, il manque de possibilités d'attaque. L'infanterie, donc c'est très bien, mais c'est bien pour tenir le terrain. Voilà, s'il faut, quand il s'agit, et c'est ce qu'on voit maintenant dans cette deuxième phase de la guerre, tout ce qui est un véritable combat sur une ligne de front à l'ancienne, là c'est beaucoup plus compliqué. Et en même temps, c'est l'infanterie. On parle beaucoup moins de chars, par exemple, hein, dans cette deuxième phase de la guerre, dans les combats dans le Donbass, tout le long de la ligne fortifiée, dans la Severodonetsk, etc. On parle beaucoup moins de chars, on parle beaucoup d'artillerie. Les gens commencent à connaître le nom de certaines pièces d'artillerie, les Césars en particulier. Maintenant, on commence à parler de lance-roquettes multiples, les IMARS, des canons américains, les XM-177, pardon, etc. Ça, tiens, d'un seul coup, le public apprend le nom de pièces d'artillerie. Mais...
C'est génial comme truc. Je trouve ça fascinant la manière dont le public s'acculture à des trucs qui étaient apparemment hyper. Mais je veux dire, il y a juste 3 mois où on parlait de ça à n'importe qui, on se faisait regarder comme quelqu'un de légèrement détraqué, quoi. Enfin, non, mais il y a une familiarisation de la société qui est. Non, mais c'est bien, c'est en même temps un peu inquiétant parce qu'il n'y a pas de raison non plus de fétichiser des gros canons. Enfin, on n'a pas envie de s'en servir, donc c'est. Voilà. Mais c'est très étonnant ce phénomène, quoi.
Oui, mais en même temps, voilà, c'est un symptôme de ce qui se passe quand même un peu sur le terrain, quoi, des évolutions militaires sur le terrain. Et donc, on retrouve des combats. Alors, évidemment, ça fait penser à la bascule de la guerre de mouvement 1914 à la guerre de position tout de suite après, ou c'est moins connu, mais la guerre de Corée, par exemple, une phase comme ça extrêmement subite où on change complètement de mode de guerre. Et dans ce mode de guerre de position, c'est le couple artillerie-infanterie qui reprend le premier rôle. Il est significatif que, et donc avec les faiblesses de part et d'autre, il est significatif que les Russes, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Très classiquement, d'abord ils ont démonté les groupements tactiques, trop lourds, donc ils ont regroupé des grosses masses d'artillerie qui vont faire des grosses concentrations de feu, et après ils ont regroupé tout ce qu'ils ont de bon comme infanterie, les VDV, donc les parachutistes, l'infanterie navale, l'infanterie marine, les Wagner, les mercenaires, éventuellement des Tchétchènes, c'est avec ça qu'ils montent des assauts. Qu'ils attaquent. On notera d'ailleurs qu'il n'y en a aucun qui fait partie de ces unités, fait partie de l'armée de terre, et qui est quand même un peu disqualifié sur ce coup. Et c'est avec ces gens-là qui se concentrent sur certains points, autour de Severodonetsk, notamment, de la ville de Popasna, qui est un vrai succès pour les Russes, etc. Mais voilà, c'est cette idée de l'infanterie d'assaut qui revient face à une infanterie qui défend, une infanterie de position qui défend, et le tout couplé avec, essentiellement avec de l'artillerie.
Alors justement, comment est-ce qu'on caractériserait les atouts, enfin les avantages comparatifs de la Russie ? Est-ce que c'est encore la masse de feu, la masse d'équipement, la masse aussi d'hommes comparé à l'Ukraine, même si c'est différent, les capacités de mobilisation sont différentes. Mais qu'est-ce qui fait ? On a compris que les Ukrainiens, c'était le tissu, le maillage, la capacité à mailler le terrain, etc. Les Russes, du point de vue de l'infanterie, sur quoi est-ce qu'ils s'appuient ?
Alors le problème qu'il y a de part et d'autre, c'est qu'en réalité, on peut difficilement manœuvrer à grande échelle, sous le feu, un feu qui est un peu différent. Les Ukrainiens peuvent pas faire de grands mouvements, sinon ils se font à proximité de l'ennemi, sinon ils se font taper par, on n'a pas parlé, mais il y a quand même un peu de supériorité aérienne quand même russe, qu'ils arrivent quand même à faire plusieurs centaines de sorties aériennes dans une aviation qui est très largement revenue à son rôle d'artillerie volante, on va dire, ou d'artillerie lointaine. Et donc bouger sous ce ciel qui est tenu par les Russes et sous les obus russes, lance-roquettes multiples, ça tape jusqu'à 90 km, etc. Enfin, c'est compliqué de manœuvrer là-dessous. Pour les Russes, on l'a vu, c'est aussi compliqué maintenant de manœuvrer sous les feux, et notamment ces feux d'infanterie qu'on a évoqués, y compris aussi de l'artillerie ukrainienne qui est relativement précise. Donc on manœuvre de manière beaucoup plus discrète de part et d'autre. Les Russes, et de manière beaucoup plus limitée, avec des objectifs très limités. Donc on attaque pour quelques centaines de mètres pour s'emparer d'un village, et si au bout d'une semaine on s'est emparé de ce point, on est content, quoi. Et ça permet après de progresser et de marteler un petit peu le front petit à petit, et pour espérer voir émerger quand même un effet opératif ou stratégique. Au début de la guerre, on parlait de grandes villes, on parlait de Kharkiv, de Kiev, des batailles de... Maintenant, on parle de batailles de villages. Donc, c'est une réduction considérable des opérations, réduction considérable des attaques. Dans ce contexte-là, l'atout principal de la Russie, c'est sa masse d'artillerie. Ils ont peut-être 2400 pièces d'artillerie, ce qui est colossal. Donc, ils ont une capacité d'envoyer plusieurs centaines de milliers d'obus chaque jour. Donc c'est peut-être c'est l'équivalent d'une arme nucléaire tactique chaque jour qui peut être larguée sur n'importe quelle position ukrainienne. Bon, en termes de puissance explosive, oui, ça revient à ça, quoi. Après, derrière, l'interrogation qu'on a, c'est comment ils arrivent. Moi, ce que j'ai, c'est comment ils arrivent à alimenter logistiquement ça. Moi, je reviens à ce que disait sur la guerre en Allemagne. Nous, notre ennemi, c'était le groupe de forces soviétiques en Allemagne, bon, voilà, qui ressemble beaucoup à l'armée russe en Ukraine, hein, en volume, équipement, etc. Bon. Mais à l'époque, on imaginait faire tempête rouge, on n'imaginait pas une seule seconde que ça puisse durer 3 mois. Quoi. Ça nous paraissait inconcevable. D'ailleurs, on n'aurait pas eu les moyens d'alimenter la guerre pendant 3 mois, enfin, je pense. Et là, c'est une des surprises de cette guerre, c'est ça, c'est que c'est un combat d'une très haute intensité qui dure aussi longtemps et avec une grosse inconnue, c'est comment, des deux côtés, on peut arriver à alimenter simplement logistiquement cet effort colossal.
Et vous voulez dire en flux, en termes de flux et d'artères, en quelque sorte, logistique, ou même
en termes de stock,
c'est une question que je me pose aussi. Ils les produisent où est-ce que c'est juste des entrepôts qui pourrissaient depuis 30 ans qu'ils ont rouvert, ou est-ce qu'ils ont continué à en produire
J'avoue que je ne sais pas très bien. C'est un peu une inconnue. Et je pense que c'est encore plus compliqué pour les Ukrainiens, pour le coup.
Mais après, pour les Ukrainiens, on a une relative transparence. Enfin, parce que parce qu'ils sont alimentés par des pays. Après, il y a beaucoup de bluffs et d'intox aussi, mais on dit ce qu'on leur livre et...
Oui, non, mais ils ont une artillerie qui est globalement une artillerie ex-soviétique. Qui produit ces obus alors, il y a peut-être des stocks encore. Bon, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont été détruits avant la guerre, mystérieusement, par des divers sabotages.
Des pannes de courant, exactement. Des fuites d'eau, c'est terrible.
Non, mais qui produit des obus pour les chars, des obus de 115 mm, des obus de 122 mm, il n'y en a pas beaucoup, donc je ne sais pas très bien. Alors, on peut les acheter sur le marché, enfin, il y a tout un trafic.
Ouais, mais eBay ne va que jusqu'à un certain point, quoi.
C'est un vrai problème. Ça, dans ce bras de fer, oui, au moment, ça peut craquer parce que d'un côté comme de l'autre, on n'arrive plus à alimenter, et à tout point de vue d'ailleurs, y compris alimenter en homme, ça peut craquer. De manière assez classique, les Russes, ils sont revenus à un binôme assez très très basique, je dirais, hein, l'artillerie conquiert pratiquement, l'infanterie occupe, quoi, hein, donc on l'écrase par le feu et puis on la voit dans la foulée aussi vite que possible des gars essayer d'occuper la position, quoi. Et dès que ces gars sentent que ça résiste encore, ils reviennent. Donc 3 fois sur 4 ça marche pas, et puis de temps en temps ils arrivent sur la position. Il y a très peu de combats en réalité. Il faut bien comprendre qu'il y a très peu
de combats d'infanterie.
De combats d'infanterie, c'est quelque chose de rare. Hein. L'immense majorité.
C'est difficile de pas penser au front de 14, quoi, à 18, quoi. C'est-à-dire on pilonne l'ennemi autant qu'on peut, ça marche moyennement. De temps en temps, on tente une sortie, mais on se fait décimer. Donc, on a tendance à essayer de rester et d'attendre.
Ce qu'on demande aux gens, par exemple, c'est un courage qui est plutôt un courage stoïcien, quoi. Hein, demande de résister au feu en particulier. Les 2/3 des pertes, au moins, ce sont le fait de l'artillerie, simplement. Et plus qu'un courage homérique où on dit, tu vas monter l'assaut et puis tu vas te taper au corps à corps. Ça, c'est en réalité, c'est très rare. C'est rarissime. C'est le combat d'aveugle. Hein. Y a beaucoup. On écoute beaucoup. Effectivement, les sons, on calcule d'où ça vient, etc. Mais en fait, on voit pas grand-chose, quoi, et on voit pas beaucoup l'ennemi dans ce type de combat. Donc,
très intéressant, très beau de réintroduire les sens et le fait que
y a une inversion complète de la normalité dans ce sens. C'est plus quand vous êtes terré, vous êtes planqué comme ça, et que même ceux qui attaquent tentent de se planquer au maximum, vous voyez pas grand-chose, quoi. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a des soldats qui disaient moi, j'ai vu l'ennemi au bout de 2 ans, quoi. J'ai vu un ennemi vraiment devant moi au bout de 2 ans, quoi. Donc, on se combat à distance comme ça. Et puis, ce qui se passe concrètement, c'est que quand la préparation d'artillerie est trop importante, soit on est cassé, généralement, soit on se replie. Et puis, on n'a plus la capacité de résister. Et puis, et on voit l'ennemi qui approche. Et puis, on se replie parce qu'on se dit que ça c'est pas possible. Soit on a la capacité de résister et puis on commence à ouvrir le feu sur cet ennemi qui, lui, voit que bah, ça va être compliqué et qui, à son tour, se replie. Quoi. C'est ça, c'est...
Et là, c'est la phase dans laquelle on est. La première phase était très différente. Il y avait beaucoup plus de pertes parce que c'était. Voilà, là, ils essayaient leur chevaucher vers Kiev et Kharkiv.
Il y avait beaucoup de pertes de véhicules. Hmm. Ça, on est un peu dans notre contexte. Quand.
Oui, ouais. Mais bon, non, mais donc c'était une époque où les véhicules servaient beaucoup plus.
Là, bien sûr, c'est une guerre de, qu'on appelle ça une guerre de mouvement, une guerre de manœuvre sur route. Bon, bah, maintenant on a complètement basculé dans autre chose.
Bah, notamment, bah, justement, une guerre qu'on pourrait appeler une guerre d'attrition, donc avec ce que vous décriviez il y a 5 minutes, c'est-à-dire qui va être à sec en premier, quoi. De ce point de vue-là, dans ce contexte-là, et donc un usage de l'infanterie mais limité, beaucoup d'artillerie, peu de chars. Ouais. Qu'est-ce que le soutien occidental fait ou ne fait pas ?
Vous
disiez, on les a formés, enfin, les armées occidentales aidé à la formation, à la structure, etc. Mais dans quelle mesure est-ce que ça peut amener une différence, un surplus d'efficacité ?
C'est fondamental. Au passage, effectivement, il y a eu un travail d'aide en amont, essentiellement par les pays anglo-saxons, États-Unis en premier lieu. Au passage, on peut se dire, tiens, si les Ukrainiens avaient disposé dès le départ de tout ce qu'on leur a envoyé par la suite, ou simplement les matériels légers qu'on leur a envoyé, tous les missiles, les Javelin, les Stingers, si on les avait vus dès le départ, bah, peut-être que les choses seraient peut-être mieux passées, encore mieux en tout cas pour eux, moins mal. Bon, passons. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On envoie ce qu'on a sur étagère, quoi. Donc on dit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme ça que se définit la stratégie. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire sanctions économiques, donc ça on peut. Et après, il faut aider l'Ukraine.
On a des Césars qui traînent quelque part.
Mais qu'est-ce qu'on a en stock ? Qu'est-ce qu'on a sur étagère ? Avant même d'arriver au César, parce qu'il y a eu la question de savoir, les fameuses armes défensives, offensives, machin, qu'est-ce qu'on peut faire sans trop énerver les Russes, sans provoquer d'escalade gênante. On a commencé par du petit, puis on a envoyé de plus en plus lourd. On aurait pu envoyer du lourd d'emblée, rétrospectivement, mais passons. Surtout, c'est qu'est-ce qu'on a en stock ? Et là, on s'aperçoit que pas grand-chose en stock, hein, donc on envoie ce qu'on a. Mais comme on a réduit nous-mêmes nos stocks, nos flux au strict minimum, pour faire des économies, pas grand-chose, quoi. On voit ce qu'on a, puis après on commence à envoyer un peu, on commence à attaquer un peu sur notre propre substance. Mais là aussi, la substance, elle est faible. On peut arriver à moins, puis derrière, ça c'est la première phase. Puis deuxième phase, c'est il faut derrière qu'il y ait une industrie tout simplement, hein, qui remette en place des chaînes de fabrication, qui alimente à nouveau. La plupart du matériel que l'on fournit aux Ukrainiens, ils ne sont plus produits depuis longtemps, parfois. On bute. Il peut y avoir à court terme, il peut y avoir un vrai problème de livraison d'équipement. Alors il y a ces équipements, puis après il y a des trucs très simples, hein, envoyer des camions, ça peut être très utile. On parlait de logistique, c'est essentiel pour eux. Envoyer tout ce qu'on a récupéré, acheté un peu sur le marché de l'occasion, tout ce qui ressemble à du matériel soviétique ou surtout des munitions soviétiques, c'est essentiel. Le carburant, c'est fondamental. Des choses aussi simples que ça qui permettent aussi simples, mais qui sont difficiles à faire, malgré tout, à faire parvenir en première ligne, et qui permettent d'alimenter au moins l'effort de guerre ukrainien. Et puis, après, à plus long terme, peut-être, oui, qu'on peut imaginer comme il y a... L'étape suivante, c'est constituer de nouvelles unités ukrainiennes. Quoi. Et puis, petit à petit, d'avoir quelque chose, de faire basculer le rapport de force à long terme, parce que, au moins, en termes de potentiel humain, l'Ukraine est mobilisée, c'est une nation en armes, donc il y a un potentiel humain qui est disponible. Depuis 3 mois, j'ose espérer qu'ils ont quand même aussi, ceux qui avaient zéro formation, commencent déjà à avoir une capacité à combattre.
En tout cas, ils ont vu des trucs, ouais.
Oui, mais bon...
Un peu sur la même manière qu'il y avait un reportage encore il n'y a pas longtemps, on a formé leurs artilleurs au César, probablement à Angers, en France. De la même manière, on pourrait supposer qu'on pourrait former des groupements tactiques d'infanterie en France ou en...
C'est l'étape suivante. C'est ce qu'il faut, au bout du compte, c'est ça. C'est arriver à former de nouvelles unités de combat. D'infanterie, de charpe, mais former de nouvelles unités, ou peut-être d'artillerie, hein, ils ont cruellement besoin On parlait des avantages des uns des autres. Les Russes ont gros avantages en termes d'artillerie, mais les Ukrainiens sont faibles de ce côté-là. Et donc, on peut leur apporter quelque chose de ce point de vue, mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Et puis, en fait, on revient un peu à ce qu'on disait sur les cadres, sur les sous-officiers, etc. Ce qui demande du temps, c'est de former un encadrement surtout. D'avoir des officiers qui soient capables qui maîtrisent l'art, leur art des sous-officiers, etc.
Et puis, on ne peut pas apprendre 20 ans de métier en 3 mois. Quoi,
et voilà. Et donc, ça, c'est quand vous avez des armées qui sont créées un peu de rien, un peu comme l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est en l'occurrence un modèle en termes de création d'armées, quoi, ex nihilo. Quoi, donc, c'est tout un travail spécifique de formation de cadres. Après, c'est le cœur du problème. On estime pour former, pendant la Seconde Guerre mondiale, on formait une division blindée en 8 mois à peu près. Vous avez à peu près la norme. En partant, ça fait 3 mois. En admettant qu'on.
Si on s'était mis dès le premier jour, rendez-vous dans 5 mois.
Ben oui, non, mais bien sûr. Mais et ça, plus il faut les équipements, il faut une industrie qui alimente. Actuellement, il y a un peu le sentiment qu'il n'y a que les Américains qui sont un peu sur cette notion de capacité à aider matériellement sur la longue durée et en quantité suffisante pour faire changer les choses. Ou alors, il faut que nous, on se mette en ordre de bataille complètement et qu'on change complètement notre modèle, notamment notre modèle industriel. Donc, ça demande des changements profonds. Mais, voilà, à long terme, à court terme, il faut tenir. C'est pas évident. Il y aura des ruptures de charge en termes d'équipement, certainement. Et à long terme, si rien ne change par ailleurs, on verra se constituer. Oui, et puis d'ailleurs, il faut se renouveler parce qu'il y a des dégâts considérables. Il y a un gâchis qui doit être absolument considérable. Hein. On pense à tout ce matériel différent qui est engagé donc sur place. C'est en termes de logistique, en termes de maintenance, ça va être un cauchemar. Et donc, ça doit y avoir également effectivement beaucoup de gâchis, beaucoup de déperdition de ressources de part et d'autre. À long terme, à très long terme, ça peut aider à changer le rapport de force en admettant qu'on puisse continuer, et ça revient à ce qu'on disait, hein, qu'on puisse continuer la guerre dans 8 mois, pas encore pendant 5 mois, 10 mois, etc. Très difficile à dire, hein, chaque fois qu'on a essayé de prévoir les durées des guerres, on s'est toujours planté. Hein, on s'aperçoit qu'il y a finalement des ressources qu'on n'imagine pas forcément, qui est un peu. Alors, les combats peuvent éventuellement ralentir. Après tout, le combat, parler de 1914-1915, à un moment, on a été obligé de ralentir les combats parce qu'il n'y avait plus d'obus en France, il n'y avait plus d'obus de 75, par exemple. Tu es obligé de ralentir les opérations. Donc, il peut y avoir des ralentissements. Mais à long terme, on peut constituer en tout cas beaucoup de nouvelles unités ukrainiennes, et ça peut évidemment faire changer le rapport de force et peut-être passer à des opérations. Et puis il n'y a pas que la quantité, hein, et puis, il faut réfléchir aussi maintenant comment on arrive à casser cette paralysie du front, comment on arrive à manœuvrer alors dans un feu moderne, comment on arrive à faire face aux drones. Parce que ça aussi c'est un ingrédient essentiel maintenant du combat moderne, et on a un peu de mal à s'en prémunir. On n'a pas encore de défense anti-drone aussi bien organisée qu'on peut avoir, en tout cas une défense anti-aérienne par exemple. Ça fait partie, donc il faut intégrer ces éléments. Comment on est dans une ambiance de feu. De feu du ciel qui nous tombe dessus, du feu du ciel relativement précis qui nous tombe dessus. Voilà, donc il faut imaginer comment on manœuvre dans cette ambiance. Donc comment on fait évoluer nos unités de combat. Est-ce qu'il faut avoir des grosses unités blindées, on revient parce qu'on disait grosses unités blindées, mécanisées, bien visibles et bien frappables, ou est-ce qu'il faut au contraire être très dispersé et revenir à des trucs beaucoup plus légers pour camoufler, pour justement éviter ce feu du ciel. On ne sait pas, peut-être qu'on va revenir, c'est une hypothèse, hein, qu'on va revenir un peu à cette différenciation qu'il y avait... qu'on disait au tout début, sur, après la Première Guerre mondiale, entre les unités cavalerie très légères, et au contraire, pour des combats, par exemple urbains, ou des combats retranchés, quelque chose de beaucoup cuirassé, de beaucoup plus lourd, qui permettent, voilà, de franchir des zones difficiles sur de petits espaces, par exemple. On peut avoir redifférencié comme ça ce type de combat. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a à la fois des armées qui viennent du siècle dernier, qui se battent, et en même temps, il y a un environnement 21e siècle, dans plein d'autres aspects, plein d'ajouts techniques, mais pas que, dans ce conflit entre armées des années 80, quoi. Et donc, ouais, au bout du compte, ouais, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont en train de se dessiner en matière d'art de la guerre en Ukraine.
Merci beaucoup Michel Goya.
Merci à vous.
Donc je vais rappeler évidemment, je vais recommander vos interventions multiples sur BFM TV, aussi recommander à nouveau votre blog La Voix de l'Épée, où vous avez récemment publié deux articles qui parlaient un peu de l'artillerie des blindés et de l'infanterie aussi, qui reprennent d'une certaine mesure ce qu'on a dit aujourd'hui. Et évidemment recommander aussi votre dernier ouvrage, dont vous étiez aussi venu parler, Le Temps des Guépards, une histoire des opérations extérieures françaises sous la 5e République. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques, commentaires et notes sont bienvenues par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou encore sur Apple Podcast ou SoundCloud, où il y a des outils pour commenter et noter notamment les épisodes et le podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.